Parmi les choses que j'ai envie qu'on fasse dans les deux prochaines semaines, bien sûr, à tous les jours, on va parler de hockey. Martin Thériault, surnommé, je pense, Marty. Moi, je suis encore sur Martin Thériault. Je pense qu'éventuellement, ça va devenir Marty. Mais nous parle de hockey à 7h30 à tous les jours. Et Alexis aussi va nous en parler de manière quotidienne, parce que au fil de ces 13 journées de remplacement que je ferai avec vous, on s'est donné, et Alexis s'est donné le mandat un peu, de passer à travers l'actualité de toutes les équipes de la Ligue nationale sur leur été qu'ils auront eu. Alors je vous invite à être avec nous, bien sûr, à tous les jours, et on va essayer de le faire toujours vers cette heure-là, là, dans la deuxième portion de l'émission, là, vers 8h30, 8h40. Alexis, à chaque jour, tu vas passer, et je dis passer, là, mais tu vas parler de deux ou trois équipes, en commençant aujourd'hui par la section Pacifique. T'es allé complètement à l'autre bout de là où ouais. on est, et tranquillement, je pense qu'on va revenir vers l'Atlantique au fil des journées.
On va se garder la division du Canadien pour terminer, puis également, ça va nous laisser l'occasion, justement, si jamais le Canadien fait d'autres mouvements d'ici là, que ce soit des signatures ou qui sait, peut-être même une transaction, on va avoir le temps peut-être d'en parler davantage à la fin.
Je te confirme qu'on va trouver le temps d'en parler s'il faut une transaction.
Aussi. Donc oui, non, je suis allé du côté de la Pacifique aujourd'hui, on s'éloigne un peu, et j'ai fait ça simple. Écoute, j'ai pris le classement de la dernière saison dans chaque division, puis je l'ai tourné à l'envers. Donc on commence aujourd'hui avec les Sharks de San Jose.
Qui sont très intéressants à parler.
Oui.
C'est une très belle équipe pour analyser, une équipe qui s'en va dans la bonne direction. Et écoute, moi je suis un peu comme un de nos collaborateurs qu'on avait ici, Simon Snake Boisvert. J'adore, moi aussi, les jeunes espoirs dans la Ligue nationale de hockey, les équipes en reconstruction. Donc clairement, les Sharks, c'est une équipe qui s'y porte très bien. Et pour parler de ce qu'ils ont fait cet été jusqu'à présent...
Parce qu'ils ont fait beaucoup de choses, eux.
On a fait beaucoup de choses, et pour être bien honnête, il y a certains mouvements que j'ai pas trop nécessairement compris. On va peut-être pouvoir démystifier ça. Tout d'abord, évidemment, bien, on a repêché Michael Misso au deuxième rang du repêchage. Donc ça, clairement, qui va pouvoir se greffer à l'équipe lors des prochaines saisons. Ça va être un morceau important qui va venir joindre des gars comme Macklin Celebrini, Will Smith et William McLean, notamment, sur un top 6. Donc on parle vraiment ici là, de joueurs qui vont s'imposer comme des piliers dans cette formation-là.
J'ai l'impression qu'on aurait aimé avoir le premier choix pour prendre à la défense un Matthew Schaefer, parce qu'on avait encore plus de besoins là. Mais là, ça nous fait beaucoup d'attaquants avec Misa qui s'ajoute. Là.
Exactement. On va avoir un groupe d'attaquants très solide. Donc là, reste à voir ce qu'on va faire du côté de la défensive. Et c'est là, justement, que je porte mon attention, puisqu'on a fait des signatures aux agents libres de Dmitri Orlov. Et puis, on a également ramassé, si je peux utiliser le terme, Nick Leddy, qui avait été soumis au balotage par les Blues de Saint-Louis. Donc, on vient ajouter des vétérans en défensive, puisque c'est une formation à la défense qui est très jeune, avec peu d'expérience. On regarde un top 6 qui est assez dégarni pour la saison prochaine. J'ai pris le site Daily Faceoff pour me fier aux lignes projetées, aux combinaisons projetées pour la saison prochaine. On regarde Mario Ferraro, Timothy Lilgren, Orlov avec John Klingberg et Shakir Mukamadoulin et Jack Thompson. Donc, une défensive très peu expérimentée qui n'ira pas très loin, si je veux dire ça comme ça.
Ça va être encore une autre saison difficile pour les Sharks, mais on va progresser. En tout cas, je leur souhaite de progresser.
Ben, c'est le constat que j'en fais. T'sais, si on regarde, ils ont terminé au 8e rang de la division la saison dernière. Une saison qui a été très difficile. 20 victoires seulement, 50 défaites et 12 défaites en temps supplémentaire. Écoute, je sais pas pour vous, les gars, mais moi, ma projection pour cette année, si je les vois encore terminer au dernier rang de la division Pacifique, là.
Je pense que je les vois encore terminer au dernier rang. Cette année, moi, ce que je vais le plus surveiller avec les Sharks, c'est Yaroslav Askarov, le gardien russe, que lui, j'attends. Puis ça fait des années qu'on l'attend. Je sais que les gardiens, c'est plus long. Il a été acquis par les Sharks des Prédateurs. Il a encore joué dans la Ligue américaine l'an dernier. Là, j'ai l'impression que cette année, là, c'est vraiment son année pour lui. Là.
C'est son année. Clairement que du côté des Sharks, on va lui faire confiance. On va lui donner le filet. On a rien à perdre, en fait, de ce côté-là. Et justement, on avait Alexander Georgiev qui était là la saison passée, qu'on a laissé aller aux agents libres. Donc, clairement, ça laisse la possibilité à Askarov de s'établir comme le numéro un de cette équipe-là, que ce soit pour cette année, mais pour le long terme également. Il a fait du très beau travail dans les rangs de la Ligue américaine, que ce soit avec le club école des Sharks ou avant ça avec les Admirals de Milwaukee. Un gardien qu'on attend, comme tu le mentionnes, depuis longtemps, avec un gros potentiel que les Prédateurs ont décidé de laisser aller, faisant confiance à UC Saros pour le long terme. Mais clairement, là, qu'on passe à un nouveau chapitre chez les Sharks avec Askarov devant le filet pour les prochaines saisons. Moi, c'est un gardien que j'aime beaucoup, que je crois qu'il pourrait devenir l'un des très bons dans la Ligue nationale de hockey. Et ça va être intéressant, clairement, de le voir sur une saison complète avec le grand club. Si on passe également aux joueurs à surveiller pour la prochaine saison, et ça peut être un segment qui peut peut-être intéresser les pooleurs aussi, ceux qui ont des pool keepers à long terme, ou
ouais,
juste
ceux qui ont des pool keepers à long terme, parce que des pools pour cette année, ouais, pour que les joueurs des Sharks vont être super payants dans
des
pools.
Exact, exact.
Effectivement. Et là, justement, bon, écoute, on vient d'en parler. C'était mon deuxième joueur à surveiller du côté des Sharks, Askarov. Donc, on reviendra pas trop là-dessus longtemps. Mais sinon, j'ai Will Smith. Parce qu'effectivement, on sait que c'est Celebrini, je veux dire, il a bien fait la saison passée. Il va encore bien faire cette année. Du côté de Will Smith, je trouve ça intéressant parce qu'il a vraiment eu une saison en deux temps la saison passée. Sa première saison, ça a été très difficile. C'est un joueur qui aurait peut-être pu bénéficier d'une autre saison dans les rangs collégiaux. A décidé de faire le saut immédiatement dans la Ligue nationale de hockey. Puis, ça l'a paru un petit peu plus difficile au début. S'est cherché pendant un certain temps, a cherché ses repères. Il s'est fait frapper beaucoup aussi. Et lorsque finalement, il a trouvé son rythme, eh bien là, ça s'est mis à beaucoup mieux se passer de son côté. Si je fais, j'ai divisé en fait sa saison en deux. Donc, ses 37 premiers matchs, a récolté 6 buts, 8 passes pour 14 points. Et lors de ses 37 derniers matchs, 12 buts, 19 passes, 31 points. Donc, il a doublé sa production offensive. Donc, c'est clairement un joueur qui a pris du momentum en fin de saison et qui, je crois, va continuer là-dessus la saison prochaine.
Ça a été aussi un joueur où on se questionnait beaucoup sur son utilisation. Est-ce qu'il va jouer au centre? Est-ce qu'il va jouer à l'aile? Finalement, quand McLean Celebrini a eu son air d'aller, finalement, on l'a bien mis avec William Eklund. A très bien fait. Ce trio-là va être vraiment intéressant là, pour les Sharks. Si vous avez trois joueurs à vous mettre sous la dent, c'est vraiment ces gars-là en termes de production. Will Smith qui a gagné en maturité. Tu as très bien de le mentionner. Moi, je pense que c'est un excellent joueur à surveiller.
Absolument. Puis c'est quelqu'un aussi qui va bénéficier de beaucoup de temps, on s'entend, sur le jeu de puissance. Donc, encore une fois, va avoir l'occasion de se faire valoir à ce niveau-là. Tu sais, Will Smith, c'est peut-être pour les gens qui le connaissent un peu moins, c'est un joueur qui a un excellent tir du poignet, qui a une bonne vision de jeu, qui est capable aussi de trouver des lignes de passe pour ses coéquipiers lorsqu'on dirait qu'il y a un peu moins d'ouverture. Donc, clairement, un joueur assez créatif qui va être un pilier chez les Sharks pour longtemps. Si on passe à la deuxième équipe de la journée, eh bien, on a le Kraken de Seattle, eux qui ont terminé 7e de la division Pacifique la saison dernière avec une fiche de 35 victoires, 41 défaites et 6 défaites en temps supplémentaire. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements cet été jusqu'à présent chez le Kraken de Seattle. On a repêché Jake O'Brien au 8e rang qu'on a mis sous contrat par la suite, son contrat d'entrée, donc 3 ans, 975 000 $ par année. On a également acquis un peu plus tôt au début de l'été, ça avait ouvert un peu le bal des transactions, Mason Marchman des Stars de Dallas.
Ça fait bien, ça.
Ben, on a été chercher surtout de la profondeur chez le Kraken cet été. On n'a pas touché au noyau, la défensive qui reste presque intacte également. Seulement Ryan Lindgren qui s'est jumelé à cette combinaison de défensive là, voilà. Et mis
on
à part ça,
on a fait moins de mouvements que les Sharks qui eux ont bougé énormément. Là.
Exactement.
Ouais, exactement. T'sais, Frédéric Gaudreau également qui s'est joint aux Sharks. Ryan Lindgren comme je le mentionnais. Matt Murray également qui effectue un retour. Lui, lui aussi il semble avoir plusieurs vies. Hein. Je sais pas s'il va se rendre comme Rich Hill, mais du moins
45 ans entre les buts.
Ouais, non, c'est ça.
Et, Frédéric Gaudreau, ça va en être un que j'ai hâte de voir avec le Kraken aussi. C'est un gars du Québec quand même qui est toujours plaisant à surveiller aussi. Puis c'est un bon vétéran dans une équipe.
Ouais, ben il a fait sa place dans la Ligue nationale de hockey, hein, Frédéric Gaudreau, à titre de joueur de fin d'alignement là, en termes de profondeur. Il est capable d'apporter une certaine production offensive. Puis c'est un gars qui joue gros aussi, qui peut être dérangeant pour l'adversaire. Il lui reste encore 3 ans, un contrat de 2,1 millions de dollars. Donc, quand même, un contrat assez léger à prendre aussi pour une équipe comme le Kraken. Et parlant de contrat, ben là, justement, on le dit depuis le début de l'émission, mais Capo Caco qui s'est entendu justement hier avec le Kraken pour 3 ans, 4 525 000 $. J'aborde dans le même sens que Martin Thériault tout à l'heure. Je trouve que c'est un contrat qui fait beaucoup de sens pour Capo Caco et surtout avec le cap salarial qui va augmenter de façon assez considérable dans les prochaines saisons. Ça va être un contrat qui ne peut pas vraiment mal vieillir selon moi et si justement il continue de bâtir sur son passage avec le Kraken la saison dernière, peut s'avérer être un très bon contrat s'il joue des minutes sur le top 6. Parce que lorsqu'on regarde la comparaison entre son temps de jeu avec les Rangers et avec le Kraken, il y a 4 minutes de différence par match en termes de temps de jeu. Donc, c'est
énorme.
C'est vraiment énorme. Là, on est passé d'un joueur de troisième trio qu'on... Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on a mal géré sa progression du côté des Rangers.
Ben, c'est parce qu'il est arrivé à un moment où on n'attendait pas nécessairement un choix aussi haut et qu'on avait déjà une équipe qui était quand même assez complète au niveau du top 6. C'est un peu la même chose avec Lafrenière. On regarde un McLean Celebrini ou un Will Smith avec les Sharks. On leur donne la chance de se faire valoir rapidement parce qu'on a besoin d'eux. Les Rangers ont été chanceux à la loterie là, pendant ces moments-là, particulièrement avec Lafrenière. Je pense qu'on était passé de 13e à 1er.
On a fait un saut de comme 12 rangs.
Exact, pour aller le chercher. Alors, ça a été un peu ça avec Capo Caco aussi.
Mais
J'allais dire, qu'est-ce qui est intéressant aussi là, du côté du Kraken, c'est que là, on se retrouve à avoir deux choix de premier tour. Là, la transaction de Yannick Gourde a fait du bien en 26-27. Donc ça aussi, ça va être des aspects intéressants. On sait que Lightning, ça va peut-être être sur la pente descendante dans les prochaines années. On a beaucoup de joueurs autonomes quand même. Jaden Schwartz, Jordan Eberle, notre capitaine Mason Marchman, Elita Vanen, ça va être des joueurs à surveiller. Est-ce que vous trouvez, puis là je te pose la question, Jasmin aussi, tu pourras répondre, est-ce que vous trouvez que ce talent élite-là est manquant quand même là, du côté du Kraken?
100%.
Il manque un visage un peu au sommet de tout ça. Je ne sais pas si Shane Wright a le potentiel de le devenir, ce visage-là. J'ai l'impression qu'ils ont terminé l'an dernier au 7e rang de la section et qu'ils pourraient bien encore terminer à ce rang-là cette année. Il n'y a pas nécessairement eu de mouvement qui me fait croire qu'il va y avoir tant que ça une augmentation.
C'est ce que j'ai noté. Selon moi, Shane Wright est le seul joueur dans cette formation-là qui peut progresser cette saison, si je peux dire ça comme ça. Parce que je sais pas pour vous, mais personnellement, Matty Beniers, c'est quelqu'un qui m'excite pas tellement, surtout comme joueur de premier centre. Je trouve que
c'est un gars efficace, mais
c'est très inconstant depuis le début de sa carrière. A commencé quand même en force lors de sa première saison, mais par la suite, ça l'a diminué en termes de production. A eu, je pense, un petit peu au-dessus de 40 points la saison dernière, mais à part ça, on a beaucoup de vétérans sur un top 6 qui va être à peu près garni des gars comme justement Jaden Schwartz, Jordan Eberle, Jared McCann qui fait toujours bien, Chandler Stevenson également. Donc, tu sais, c'est plus âgé en termes de formation et même du côté de la défensive aussi quand on projette encore un Adam Larson sur la première paire. Bien sûr, tu as Brandon Montour qui est là aussi pour l'épauler, donc ça fait pas de tort, mais mine de rien, avec le duo Joey Dacor et Philip Grubauer dans les buts, et mine de rien, Grubauer, on s'entend que c'est assez difficile depuis qu'il a quitté justement l'Avalanche du Colorado. Je parierais pas trop cher sur le Kraken lors de la prochaine saison. Là.
On va surveiller ça assurément et on va poursuivre cette tournée-là au fil des prochains jours. Alexis, merci pour ces deux premières équipes-là. Il t'en reste 30 à faire. Alors,
on a deux.
Merci beaucoup pour ça. On va essayer de se prendre le rendez-vous à chaque jour, à peu près vers la même heure, pour parler un peu de hockey de la Ligue nationale.